Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, Nord Kivu, près de 50 jeunes introuvables après bouclage mené par l'AFC M23 dans la nuit du 6 au 7 juillet dans certains quartiers riverains du camp militaire Katindo à Goma. Inquiétude du conseil urbain de la jeunesse de Karisimbi qui appelle à l'implication des organisations de défense des droits humains. Bounia, des informations sur Ebola, boucherie désertée, des messages relayés sur les réseaux sociaux, des conseils, la consommation des viandes de bœuf, inquiétant les professionnels du secteur. Tanganyika, éléphant en divagation, inquiétude à Maneno, champs dévastés et une dizaine de morts. Le parc Upemba reconnaît la difficulté de refouler ses pachydermes. Pour en parler, nous recevons Antonio Longangi, chargé de communication du parc Upemba. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'avoir choisi la radio de la paix pour avoir les informations fiables traitées avec professionnalisme. Au Nord Kivu, près de 50 jeunes demeurent introuvables. D'après des témoignages recueillis auprès des proches des personnes concernées, ces jeunes, parmi lesquels des mineurs, ont été interpellés par les éléments de l'FC M23 lors d'un bouclage mené dans la nuit du 6 au 7 juillet dans certains quartiers riverains du camp militaire Katindo à Goma. Le conseil urbain de la jeunesse de Karisimbi exprime ses inquiétudes quant à leur sort et sollicite l'implication des organisations de défense des droits humains. Les détails avec vous, Ronéline Tibonera.
Selon plusieurs témoignages, les personnes interpellées auraient été appréhendées sur les avenues Salongo 3 et Katoi 1 dans les quartiers Mabanga Nord et Kasika en commune de Karisimbi. Des proches affirment qu'elles auraient d'abord été regroupées au stade du camp Katindo avant d'être embarquées dans des camions en direction d'un lieu non communiqué. Ces sources disent craindre un éventuel enrôlement forcé. Dans un communiqué diffusé ce mercredi matin, les conseils urbains de la jeunesse de Karisimbi appellent les organisations nationales et internationales de défense des droits humains à suivre ces dossiers de près et à établir la situation de personnes concernées. À ce stade, aucune réaction officielle de l'AFC M23 n'a été enregistrée concernant ces allégations. Les conseils de la jeunesse appellent par ailleurs au respect du droit international humanitaire ainsi que de la convention relative aux droits de l'enfant. Plusieurs acteurs locaux soulignent que cet incident survient quelques jours après d'autres interpellations massives signalées le 1er juillet à Goma. Selon eux, deux jeunes, deux femmes et des hommes avaient été arrêtés alors qu'ils célébraient les premiers buts marqués par les Léopards lors du match face à l'Angleterre. 31 de ces personnes avaient été officiellement libérées le 3 juillet, tandis que d'autres demeureraient sans nouvelles connues.
Et puis, malgré une baisse du nombre de violations documentées en avril, la situation des droits de l'homme demeure préoccupante en République démocratique du Congo. Dans son rapport publié ce mercredi à Kinshasa, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH, dit avoir recensé plus de 380 violations et atteintes aux droits humains dans les pays au cours du mois d'avril 2026. Les provinces en proie aux conflits armés restent les plus touchées, avec des civils toujours exposés aux exécutions sommaires, aux enlèvements, aux violences sexuelles et aux déplacements forcés. Les explications de Grace Amzati.
Le BCNUDH indique avoir documenté précisément 382 violations et atteintes aux droits de l'homme en avril contre 524 le mois précédent, soit une baisse de 27%. Une diminution qui, selon l'agence onusienne, doit toutefois être interprétée avec prudence en raison des difficultés d'accès à certaines zones touchées par l'insécurité. Près de 9 cas sur 10 ont été enregistrés dans les provinces affectées par les conflits armés, principalement au Nord Kivu, au Sud Kivu et à Ituri. Les groupes armés restent les principaux auteurs présumés de ces violations, l'AFC M23 arrivant en tête devant les Wazalendo, les groupes Mai Mai et les ADF. Des agents de l'État, notamment des militaires des FARDC et des policiers, sont également mis en cause. Le rapport fait aussi état de 37 cas de violences sexuelles liées au conflit, ayant fait 52 victimes, en majorité des femmes et des filles. Le BCNUDH relève en outre des atteintes aux libertés d'expression, des réunions et des manifestations, ainsi que des menaces visant des journalistes et des défenseurs des droits humains. Enfin, le bureau conjoint souligne que 66 dossiers de violation des droits humains ont été traités par les juridictions militaires au cours du mois d'avril dans le cadre de la lutte contre l'impunité.
Dans le même registre, lors de la 62e session des droits de l'homme, organisée le week-end dernier à Genève en Suisse, le ministre des droits humains a réaffirmé l'engagement de Kinshasa à garantir l'exercice des libertés fondamentales, notamment la tenue des manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national. Samuel Mbemba a profité de cette tribune pour plaider en faveur de la reconnaissance des génocides congolais. Il a également sensibilisé les différents partenaires sur la nécessité d'œuvrer pour la vérité, la justice et la mémoire des victimes tombées dans l'Est de la RDC. Suivez Samuel Mbemba, ministre des Droits humains.
Durant les 3 journées d'activité, il a été question pour nous de les entretenir sur l'argumentaire de la République démocratique du Congo pour la reconnaissance des génocides commis chez nous à la suite de la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda. Nous avons indiqué les cas de territoire où des populations ont été visées avec l'intention claire de les exterminer en tout ou en partie. Et nous sommes donc satisfaits de constater que nos interlocuteurs ont bien capté le message et ont pris l'engagement d'accompagner la République démocratique du Congo dans cette campagne pour la reconnaissance internationale des génocides perpétrés en République démocratique du Congo.
La voix de Sans Voix pour les droits de l'homme VSV salue la libération du journaliste Martinez Ngaluka, éditeur du groupe de presse Le Mandat. Dans un communiqué publié ce mardi, l'organisation s'est réjouie de sa remise en liberté intervenue lundi après plusieurs jours de détention. Elle remercie les partenaires ainsi que les autorités congolaises qui ont contribué à cette issue. La VSV appelle toutefois les autorités à mettre fin aux enlèvements, au trafic d'influence et à toute instrumentalisation des services de sécurité et de la justice afin de prévenir de nouveaux abus et de renforcer le respect des droits humains en République démocratique du Congo. Un centre d'isolement destiné aux cas suspects d'Ebola installé à l'hôpital général de Kitatumba à Butembo dans le Nord Kivu a été attaqué il y a 2 jours. Selon des sources sanitaires et sécuritaires, l'attaque aurait été menée par des hommes armés présumés Wazalendo. Les assaillants ont d'abord poignardé les policiers chargés de la garde de l'établissement avant de mettre le feu à la salle d'isolement. Grâce à l'intervention rapide des forces de sécurité, l'incendie a pu être maîtrisé avant de se propager à d'autres bâtiments. Toutefois, plusieurs équipements médicaux ont été détruits selon des sources sécuritaires. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les auteurs, les circonstances et les motivations de cette attaque. À Bunia, la désinformation autour de l'épidémie d'Ebola commence à peser sur l'activité de boucher. Depuis plusieurs jours, des messages relayés sur les réseaux sociaux déconseillent la consommation des viandes de bœuf, poussant de nombreux habitants à déserter les boucheries. Une situation qui inquiète les professionnels du secteur. Les détails avec Jean-Claude Lokidile.
Les bouchers de Bounia parlent d'une baisse sensible de leur clientèle. Leur association a officiellement saisi les autorités provinciales pour dénoncer une campagne de désinformation qui, selon elles, met en péril leurs activités. Jean Faustin Ounyoti est l'un d'eux.
Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux affirmant que la viande de bœuf contient le virus d'Ebola. Pourtant, notre viande provient des abattoirs contrôlés par les services vétérinaires qui apprécient l'état de santé de la vache abattue.
Face à cette inquiétude, les autorités vétérinaires rassurent la population qu'aucune preuve scientifique n'établit un lien entre la consommation de viande de bœuf issue des circuits officiels et la transmission du virus Ebola. En revanche, elles déconseillent la consommation de viande de brousse pendant cette période d'épidémie. Olivier Lumago est médecin vétérinaire.
Ils peuvent consommer encore la viande de vache, même la viande de porc ou de chèvre. Seulement, il faut se rassurer que c'est une viande qui a été bien préparée. Mais à cette période, vraiment, nous demandons aux gens ne pas consommer d'abord ou ne pas entrer en contact avec les singes, les chauves-souris, les primates ou autres.
Cependant, il demeure difficile pour les consommateurs d'identifier les boucheries qui commercialisent de la viande provenant d'abattoirs officiels, ce qui entretient le doute au sein de la population. Bounia, Jean-Claude Loki, il est Radio Kapi.
Ce journal se poursuit dans la province du Kasaï central où trouver du sang pour une transfusion est devenu un véritable défi à Kananga. Les réserves de la banque de sang sont presque à sec, plongeant plusieurs hôpitaux dans une situation critique. Faute de poches de sang disponibles, des patients en attente d'une transfusion urgente voient leurs chances de survie compromises. Face à cette pénurie préoccupante, les autorités sanitaires multiplient les appels aux dons volontaires. Le reportage d'André Katende Ngalamouloumé.
Chaque jour, des patients sont admis dans les hôpitaux avec un besoin urgent de transfusion. Mais bien souvent, la réponse est la même. Il n'y a pas de sang disponible. Au centre de santé de référence Kamulumba Eta, l'infirmier titulaire Kaden Tumba explique que l'équipe médicale est obligée de pratiquer la transfusion dite à chaud.
On cherche les membres de la famille de la personne malade qui a le même groupe ou bien les membres de la famille peuvent chercher une autre personne si le sang est compatible, on prélève.
Cette solution permet parfois de sauver des vies, mais les recherches peuvent prendre plusieurs heures pour trouver un donateur compatible. Jacques Ilunga en garde un souvenir douloureux. Son oncle est décédé avant d'être transfusé. Nous avons amené mon oncle à l'hôpital provincial. Il était malade et il avait besoin d'une perfusion. Mais comme il n'y avait pas du sang sur place, il est décédé. À la banque des sangs, le stock est faible. Le coordonnateur provincial indique qu'il y a plus de 10 ans, la province n'avait pas de frigo pour garder du sang. Mais récemment, le gouvernement central a doté cette structure en frigo, mais la difficulté persiste, le manque de donateurs volontaires. Il invite la population à avoir la culture de donner le sang pour sauver les vies humaines. Kananga, André Katende Ngalamouloumé, Radio Okapi.
Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Congo lance un appel solennel au gouvernement central afin qu'il mette sans plus tarder à la disposition de l'entreprise ATCC les moyens financiers nécessaires pour la poursuite des travaux de réhabilitation de la route Mawanga-Panzi sur une distance de 150 km. Dans une déclaration faite ce mardi, Symphorien Nkwengo, vice-président de cette structure, affirme que depuis plusieurs mois, les travaux sont à l'arrêt alors que les personnels de l'entreprise ainsi que les engins et autres équipements demeurent mobilisés à Mawanga dans l'attente de la reprise effective du chantier. Il estime que cette longue interruption pénalise gravement les populations des territoires concernés, freine les échanges commerciaux, limite l'accès aux services sociaux de base et compromet les efforts de développement de toute la province du Kwango. On écoute Symphorien Nkwengo dans cet extrait proposé par Jean-Gandou Kabongo.
Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango exprime sa profonde inquiétude face au risque de voir les ressources destinées à ces projets être réaffectées à d'autres fins, comme cela aurait été le cas pour le financement du tronçon routier Kenge-Mawanga, dont les fonds n'ont pas permis l'aboutissement des travaux selon les attentes des populations. À cet effet, le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango demande au gouvernement de la République de débloquer immédiatement les fonds nécessaires à la reprise des travaux de la route Mawanga-Panzi. Préserver les investissements déjà consentis en évitant la démobilisation du personnel et des équipements de l'entreprise ATCC. Garantir que les crédits alloués à ce projet soient exclusivement utilisés pour leur destination initiale. Assurer une gestion transparente de ressources publiques destinées aux infrastructures routières.
Un mot sur l'éducation dans ce journal. Les résultats de l'examen d'État 2026 sont désormais connus dans la province du Maniema. À Kindu, la publication des listes dans la nuit du 7 au 8 juillet a déclenché une vague de joie parmi les finalistes. À première vue, de nombreux candidats ont réussi leurs épreuves. Depuis ce matin, des scènes de liesse se multiplient dans les rues et sur les principales artères de la ville où les lauréats célèbrent leur réussite dans une ambiance festive. Reportage à Kindu de Florence Kizalunga.
C'était aux environs de 22h que les cris de joie commençaient à se faire entendre, suivis des scènes de liesse. La même nuit, certains élèves, une fois rassurés qu'ils ont réussi, enfilent leurs uniformes comme pour dire adieu aux études secondaires. Dans cette euphorie, ils ne s'est pas empêchés d'exprimer leur joie.
Je remercie fortement l'Éternel Dieu de nous avoir accompagnés tout au long de cette année. J'ai réussi avec 55%.
Oh, moi, ça, ça 85%.
Moi j'ai eu 57%.
Ah, 85%.
J'ai eu 53% à l'ITPK.
Oui, nous remercions le président de la République et notre ministre de l'enseignement. Je remercie mes parents pour leur effort, mes frères et sœurs, mes enseignants aussi.
Cette nuit-là, César et Lauréat étaient accompagnés de leurs parents et membres de famille pour donner de la saveur à ces moments festifs. Une mère de famille dont les enfants ont aussi réussi s'est ainsi exprimée. En vendant seulement des braises et farine de manioc, j'ai produit deux diplômes. Je suis très heureuse. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Province du Kasaï oriental, avant d'aller plus loin, former aujourd'hui les leaders de demain, c'est l'ambition portée par les participants aux assises de l'université protestante au cœur du Congo. Convaincus que les changements passent par l'éducation politique et l'éthique, ils proposent plusieurs réformes pour favoriser l'émergence d'une nouvelle élite dirigeante. Reportage d'Esther Ndalafina.
Au terme de leurs travaux sur l'élite politique congolaise, les participants au colloque ont dressé un constat sans complaisance. Selon eux, la classe dirigeante actuelle peine à répondre aux attentes de la population et n'est pas parvenue à impulser une véritable dynamique de développement du pays. Monseigneur Dieudonné Mbaya Tchakani, recteur de l'UPCC, résume les conclusions des travaux.
On a dit que c'est une classe qui n'est pas arrivée à combler les attentes du peuple. C'est une classe politique qui n'a pas réussi à mettre sur pied un programme cohérent de développement de la nation. On a en conclusion dit que c'est une classe politique qui n'a pas mérité.
Pour José Mpiana, jeune engagé dans la société, le renouvellement doit passer par une transition progressive et une véritable transmission intergénérationnelle.
La jeunesse vient avec l'autonomie, avec la force, mais au-delà de la force et puis de cette nouvelle connaissance, on a besoin de ces vieux pour nous accompagner enfin qu'on soit autonome dans ce qu'on peut exercer comme fonction politique.
Autre enjeu majeur soulevé au cours des échanges, la place de la femme dans la vie politique. Professeur Jean-Marie Vianney Katembo encourage ainsi les efforts supplémentaires pour accroître la participation des femmes aux instances de décision. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était mardi 7 juillet à Addis Abeba pour une visite de travail dans le cadre de sa tournée africaine. Il est attendu ce mercredi au Niger. En Guinée-Bissau, la junte au pouvoir a fixé les référendums constitutionnels au 30 août. Cette révision de la constitution intervient à 5 mois du scrutin présidentiel fixé par les militaires et censé aboutir à une transition civile.
L'invité.
Notre invité est Antonio Longangi, chargé de communication du parc Upemba. Il revient sur la divagation des éléphants dans les territoires de Manono, province du Tanganyika, et sur les dégâts que ces pachydermes causent au sein de la population. Ils dévastent des champs et sont à la base de la mort d'une dizaine de personnes. D'après lui, le refoulement de ces éléphants s'avère compliqué. On écoute Antonio Longangi dans cet entretien avec Paulin Monanga.
Monsieur Antonio Longangi, bonjour.
Bonjour.
Nous apprenons qu'il y a un grand nombre d'éléphants d'après des sources sur place à Manono. Ces éléphants ont détruit plusieurs champs de la population dans plusieurs villages et ont causé la mort de plusieurs personnes. Quelle est la situation exacte sur le terrain avec la présence de ces éléphants?
Nous avons été informés et nous avons pris différentes mesures depuis 2023 pour essayer d'établir un peu la situation de l'éléphant dans la zone d'Ankoro, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports sur la dévastation des champs et il y a aussi perte en vie humaine. Alors, pour l'instant, ça fait déjà une année depuis 2025 que nous avons, avec les autorités locales et certains partenaires, pris des mesures pour déterminer si vraiment ces éléphants-là sont du parc national de l'Upemba, parce que d'abord, ce sont des espèces intégralement protégées par la législation congolaise et ce sont un patrimoine naturel d'une importance exceptionnelle pour le pays. Alors, est-ce que ils proviennent exactement du parc? C'est la question que nous essayons de déterminer jusque-là. Et c'est dans cette optique-là que nous avons posé des colliers GPS depuis 2025 pour faire le suivi de leur migration. Donc, ce suivi télémétrique nous montre exactement par où ils passent. Et si ils étaient du parc, ils allaient sûrement se retrouver dans le parc. Mais en Kourou, c'est à 200 kilomètres de la limite nord du parc. Donc, c'est encore une question qu'on est en train d'analyser et un rapport qui sera établi bientôt pour savoir exactement si ces éléphants-là, parce que pour l'instant, la théorie est que ces éléphants-là appartiennent à cette région d'Ankoro. Ils appartiennent dans le territoire de Manono. Et s'ils provenaient du parc, ça doit faire beaucoup d'années que cela se passait. Et comme ce sont des espèces migrateurs, c'est juste normal qu'ils se retrouvent dans différents endroits dans la région.
Et vous avez dit que vous avez placé des colliers GPS sur certains de ces éléphants. Qu'est-ce que cela a donné comme résultat?
Pour l'instant, nous savons exactement leur corridor de migration parce que c'est depuis juin-juillet l'année passée que cet exercice-là a été conduit. En ce moment ici, comme je l'ai dit, il y a un rapport qui est en train d'être établi. Et il y aura d'autres données qui les seront fournies par le département de biomonitoring qui fait les suivis quotidiens. Et jusque-là, ce que nous avons pu faire, c'est aussi alerter les communautés à travers le radio communautaire qui sont dans la zone. Quand un éléphant ou un troupeau d'éléphants se retrouve dans un endroit proche d'un village, il y a toujours une communication, il y a des alertes qui sont envoyées pour prévenir les populations que les éléphants sont dans cette zone-là.
Et vous confirmez que ces éléphants n'appartiennent pas au parc Upemba?
Pour l'instant, on n'a pas de conclusion qu'ils appartiennent au parc Upemba parce que leur zone de migration se retrouve dans le territoire de Manono exclusivement.
Et à combien peut-on évaluer actuellement le nombre de ces pachydermes?
On n'a pas de chiffre exact parce que les colliers GPS n'étaient pas placés sur tous les éléphants, c'est juste certains troupeaux, 6 troupeaux seulement ont eu le collier GPS, mais ça peut aller dans une centaine.
Et pourquoi ces éléphants sont toujours en divagation?
Naturellement, les éléphants, ils migrent saisonnièrement. Alors avec ces migrations-là, c'est un peu difficile de déterminer où est-ce qu'ils vivent exactement. Parce que au même moment, nous avons des éléphants qui sont dans le parc. Et ces éléphants du parc, et aussi, ils migrent parfois dans la zone annexe, dans la zone intégrale. Ils sont toujours entre cette zone-là qui est connectée au parc. Mais ces éléphants qui sont dans le territoire de Manono, eux, ils migrent, ils viennent du nord, à différents villages, se retrouvent vers Kiofoué, et après ils remontent encore. La première fois que nous les avons vus traverser le fleuve, c'était en décembre 2025, qu'on les a vus traverser le fleuve et s'approcher du parc. Mais comme ce n'est pas leur zone, ils sont rentrés encore au nord. Et normalement, ils viennent du nord vers des localités comme Tatou, Kala. Et parfois, ils descendent repoussés par des moyens de refoulement qui ne sont pas adaptés, surtout les armes à feu, et ils viennent terroriser. Et quand ils descendent, tout humain qu'ils vont retrouver en chemin est en danger. Et c'est ça, c'est que nous essayons aussi de décourager à ces refoulements-là pas adaptés qui créent des problèmes quand les éléphants descendent, quand ils migrent. Mais officiellement, nous savons qu'ils sont entre le village Tatou, et quand ils descendent au sud, ils s'approchent pas vraiment du parc, ils traversent même pas le fleuve.
Et que faudrait-il faire pour refouler ces éléphants afin que la population vit tranquillement?
Le refoulement serait un peu compliqué parce que c'est aussi leur zone, c'est là qu'ils vivent aussi. Mais il y a des méthodes testées et adaptées qui peuvent encourager la cohabitation entre la population et ces éléphants-là. Et ça fait partie des études que nous sommes en train de conduire au niveau du parc.
Monsieur Antonio Longangi, je vous remercie.
Merci. Voilà, c'était donc notre invité Antonio Longangi, chargé de communication du parc Upemba qui s'entretenait avec Pole Munanga. Voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée préparé pour vous par Élisée Chikota-Chivueta et Jean-Gandou Kabongo. La mise en onde était assurée par Jean-Claude Nsala Mwanama Kengon Tsoalou. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.